Londres gagne 0,45% et l'Euro First 80 qui synthétise un peu le tout, eh bien s'adjuge 0,15%. Bref, un certain attentisme avant que ne tombe d'ici une petite demi-heure maintenant le chiffre tant attendu du chômage aux États-Unis pour le mois de décembre. Sur le front des devises, l'euro cote en ce moment 1,3205. Voilà clair, je vous rappelle le CAC 40 plus 0,17 à 3863 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci Cédric. Les courses à Pau dans la première, premier le 5, 1,80 et 1,20, deuxième le 2, 1,40, troisième l'As, 2,30. Pour ce qui est de la deuxième course, il y a photo pour la deuxième place, l'arrivée provisoire, 11, 12, 2, As et 9. Vous écoutez France Inter, il est presque 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui 8 juillet 1885, la révolution pasteurienne. Il y a la science et les applications de la science liées entre elles comme le fruit à l'arbre qui l'a porté. Louis Pasteur. D'histoire. Il est le savant français le plus célèbre du monde et on ne compte plus les rues, les avenues, les lycées, les hôpitaux et bien sûr les instituts qui portent son nom. Si on ne meurt plus aujourd'hui en France de la rage, si les hôpitaux sont moins dangereux qu'à l'époque où les chirurgiens ne stérilisaient pas leurs instruments, si les maladies infectieuses ont reculé, si le charbon de la vache, la maladie du ver à soie, le choléra des poules, le rouget du porc ont pratiquement disparu, si le vin, la bière ou les produits laitiers se conservent plus longtemps, c'est grâce à Louis Pasteur. Mais il est surtout connu grâce au pari insensé qu'il faisait le 8 juillet 1885. Ce jour-là, il décidait d'inoculer une demi-seringue de la moelle d'un lapin mort de la rage à un petit Alsacien de 9 ans, Joseph Meister, qu'il voulait sauver d'une maladie qui était jusque-là incurable.
Monsieur Von, aucun doute, hélas. Votre chien avait la rage.
La rage? Alors le petit est foutu.
Il reste peut-être une chance.
Vous connaissez Pasteur? Depuis 4 ans, il cherche à guérir la rage.
Il faut tenter le coup.
C'est un pari terrible, Pasteur. Si l'enfant meurt, vos ennemis vont se déchaîner.
Il ne s'agit plus d'un pari, monsieur. Si je ne fais rien, cet enfant va mourir d'une mort atroce.
Allez-y. Je vous soutiendrai s'il le faut.
Merci, monsieur le professeur.
Corinne Maillère, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Bernard Fresson dans le rôle de Pasteur, le jour où il décidait d'injecter pour la première fois le sérum de la rage à un être humain. Ce jour-là, dites-vous dans un livre sur Pasteur, c'est l'équivalent pour la médecine de ce qu'était le 14 juillet pour la Révolution française. Pourtant, il s'agit après tout que d'un progrès supplémentaire dans l'histoire de la médecine. Pourquoi une révolution ?
Parce que c'est une rupture par rapport à ce qui se faisait auparavant, dans le sens où c'est la première fois qu'on vaccine un être humain. Donc c'est quand même une rupture phénoménale, sachant qu'aujourd'hui, quand on y pense, en fait, on est tous vaccinés, enfin du moins en Occident. Donc c'est une manière de se protéger des maladies, enfin des infections, qui est radicalement nouvelle, et que Pasteur a mis au point, sans savoir, enfin sur le coup, l'impact que ça pourrait avoir, puisque finalement c'est cette manière de procéder révolutionne la médecine. Donc c'est la première fois que quelqu'un ose le faire. Ça n'avait jamais été expérimenté auparavant sur des êtres humains, parce que simplement, Pasteur n'avait pas de cobaye, donc il essaye cette méthode sur un être humain.
C'est un risque énorme en plus, hein. Il est évident que si Joseph Meister meurt, tout le monde lui serait tombé dessus.
Oui, ça aurait été la curée, parce qu'en fait il était déjà mal vu des médecins auxquels il prétendait, lui-même n'était pas médecin, mais il prétendait leur apprendre la médecine, enfin une certaine forme de médecine ou une manière de soigner les gens. Donc je pense qu'effectivement tout le monde se serait jeté sur lui pour dénoncer ses méthodes.
Mais justement, vous dites qu'il n'est pas médecin, il a révolutionné la médecine, il n'est pas médecin, on le lui a reproché, je crois que les médecins
l'appelait le médicat, je ne sais plus quel était le surnom qu'on lui donnait. Comment le définir justement? C'est un savant, certes, mais enfin, est-ce que c'est un biologiste? Est-ce que c'est un chimiste, un physicien? Il a travaillé sur les cristaux, faut le rappeler au début. C'est quoi Pasteur? Il est à la fois très connu et on ne sait pas très bien comment le définir.
Oui, mais
très touche à tout.
C'est ce qui fait le charme de sa trajectoire, c'est qu'en fait, il a traversé différentes disciplines sans jamais s'arrêter. Sachant que probablement il visait la médecine humaine, mais effectivement il a touché à tout et tout ce qu'il a fait lui a servi pour l'étape suivante. Et il va très vite, enfin puisque il commence par les cristaux, rapidement il s'intéresse aux ferments, ensuite il va s'intéresser aux vers à soie, ensuite aux animaux, ensuite au corps humain. Et donc c'est une sorte de trajectoire qui est éblouissante dans sa diversité et qui est aussi très riche parce que tout ce qu'il fait lui resserre pour après. Et qu'il traverse comme ça les champs du savoir en s'y baladant en quelque sorte de lieu en lieu comme ça, comme de liane en liane en quelque sorte, parce qu'en fait à chaque fois il y a toujours une petite chose qui lui permet d'avancer vers l'étape suivante.
Vous l'admirez parce que lui ressemblait un petit peu peut-être Corinne Maillère, hein, après un livre sur le général de Gaulle, dont vous étiez venu nous parler, de Gaulle, Lacan, l'Allemagne nazie qui vient de sortir chez Milan, il y a eu Bonjour Paresse, alors là vous avez eu un succès formidable dans votre livre, et voilà un livre donc sur Pasteur que vous intitulez en plus curieusement Saint Pasteur, marginal et révolutionnaire. Alors révolutionnaire, vous venez de dire pourquoi saint?
Parce qu'il y a un côté homme de foi en fait, il combat pour la science et la science est sa foi. En plus, il s'est totalement donné à la science, donc il y a un côté complètement il s'est abandonné, il a donné toute sa vie pour la science.
Un travailleur forcené, hein.
Oui, un travailleur forcené, puis c'est aussi quelqu'un qui monte des groupes, en fait, des églises, on serait tenté de dire des églises. Il y a l'Institut Pasteur, mais aussi les multiples instituts qui fleurissent aussi bien en province que dans différents pays du monde. Donc il y a un côté comme ça, fondation d'un nouvel ordre de la science, et qui se répand partout dans le monde.
Et puis très alors une carrière, un parcours très compartimenté, hein, vous le rappelez, il commence par travailler sur l'inerte, c'est-à-dire sur les cristaux. Il est déjà connu, hein, dans un petit cercle restreint. Il va devenir en revanche très connu, très populaire, avec un travail sur la fermentation, hein, ses travaux sur la fermentation. On savait depuis toujours, hein, depuis l'Antiquité, ce que c'était la fermentation, mais on ne savait pas quelles en étaient les causes. Et c'est Pasteur qui est à l'origine, au fond, de cette découverte.
Oui, il a rencontré le ferment en travaillant sur les cristaux, en fait. Donc il est passé de l'un à l'autre, il jeté le gant et en même temps l'éponge en ce qui concerne les cristaux, donc il a laissé à d'autres le soin de s'y intéresser. Et ensuite, il a rencontré le ferment et ça l'a beaucoup intéressé de voir un petit peu comment ça fonctionnait et de voir comment on pouvait utiliser le ferment pour des processus, je dirais, de fabrication de biens, comme le vin, le fromage, la bière, etc. Donc la science de Pasteur est toujours intégrée dans des processus qui touchent beaucoup de gens, puisque c'est grâce, enfin entre autres, à ses recherches sur cette question, qu'on a pu développer l'agroalimentaire, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroalimentaire.
Oui, c'est énorme, hein.
Ce qui est énorme.
Et ça, grâce à la découverte de quelque chose dont le mot n'existait même pas d'ailleurs, hein, du temps de Pasteur, il est arrivé après la découverte de Pasteur, c'est ce qu'on appelle le microbe, hein, qui va d'ailleurs valoir à Pasteur les foudres des plus grands médecins de l'époque.
Jamais l'action d'un microbe n'a été plus flagrante.
Le docteur Peter, il n'y croit pas beaucoup à vos microbes.
Ah, Peter, la génération spontanée. Il n'y a aucune circonstance connue aujourd'hui dans laquelle on puisse affirmer que des êtres microscopiques sont venus au monde sans germes, sans parents semblables à eux. La vie seule engendre la vie. Peter est leur porte-drapeau, mais ils sont légion. Ceux qui pensent que les vers naissent spontanément du fumier et qui ne parlent que d'humeur, de tempérament, de terrain. Ah, le terrain.
Vous pensez donc que dans les maladies infectieuses, le terrain ne joue aucun rôle?
Bien sûr que si. Mais vous savez, moi je suis d'Arbois, autant dire de la campagne, et j'ai appris que pour qu'une plante pousse, quel que soit le terrain, il faut bien qu'une graine ait été déposée là par un paysan.
Et la graine, bien sûr, Corinne Maillère, c'est le microbe. Personne n'y croit beaucoup, d'abord parce que personne n'a jamais vu un microbe à l'époque de Pasteur. Et puis cela va à l'encontre, on l'a entendu, d'une idée aussi vieille que la médecine, et aussi erronée d'ailleurs que possible, c'était la génération spontanée. Ça voulait dire quoi? Parce que ça, c'est quelque chose en quoi tout le monde croyait pendant des siècles.
Oui, enfin, c'est un débat qui est assez compliqué, mais au 19e siècle, il y a eu un moment où effectivement, il y a eu un débat qui faisait rage sur la question de savoir d'où vient la vie. Alors, il y avait des gens qui disaient, enfin, qui pensaient qu'en fait, la vie venait de rien, c'est-à-dire venait de la mort, et que, comme il est dit dans le téléfilm, en fait, les vers naissaient tout seuls du fumier.
Il y a même un bruxellois, je vous coupe, mais au 17e siècle, il s'appelait Van Helmont. Alors, il affirmait au 17e siècle, pour fabriquer une souris, il faut comprimer un vase garni de froment dans une chemise un peu sale. C'était ça, au fond, l'idée, hein, qu'un ver, ça naissait directement d'un tas de fumier et une souris d'un linge un peu sale.
Oui, c'est ça. Alors que Pasteur, et enfin les gens qui, parce qu'il n'était pas seul à défendre cette idée, pensent que la vie vient de la vie, en fait. Mais cela dit, il ne faut pas jeter non plus trop vite la pierre sur cette histoire de génération spontanée, parce que finalement, au fond, on ne sait pas d'où vient la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sait que la vie est apparue sur Terre, mais on ne sait pas d'où elle est venue. Et il y a des gens très sérieux aujourd'hui qui pensent qu'elle est venue d'une autre planète.
Le Pasteur disait, la cause, de toute façon, c'est le Big Bang, en quelque sorte. Je ne sais pas s'il était catholique pratiquant, mais il croyait en Dieu.
Oui, enfin, disons qu'il avait une religion qui était conforme aux croyances de l'époque. Donc, il était catholique, mais enfin, dire qu'il y croyait, il croyait surtout à la science, en fait. Hein. Toutes ses déclarations, ses professions de foi, ce concerne la science et jamais Dieu en lui-même. Et il dit lui-même dans ses œuvres que bon, il y a des choses qu'on ne peut connaître, donc autant les laisser de côté.
Mais la science, il n'aime pas trop la science abstraite. Au fond, pour que, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, que la science l'intéresse, il lui faut une application concrète. Et toutes ces découvertes, justement, les microbes, leurs effets, etc., il va les appliquer, vous le disiez, la stérilisation, enfin, du vin, de la bière, du lait, pour éviter leur fermentation. Et il va aussi les appliquer, ça va lui valoir beaucoup d'ennemis dans le corps médical, à quelque chose qui est très répandu, pas assez, d'ailleurs, parce qu'il y a encore des maladies dans les hôpitaux, mais à l'asepsie. Personne, les médecins de l'époque, jusqu'à Pasteur, soignaient leurs clients avec les mains sales, ils portaient une redingote, il n'y avait pas de blouse, rien du tout. Ça aussi, on a du mal à le comprendre aujourd'hui, un siècle et demi après Pasteur, un peu plus d'un siècle après Pasteur.
Oui, enfin, il y a eu d'autres médecins comme Semmelweis ou Lister qui ont travaillé, en fait, et qui avaient vu, effectivement, que les médecins ne se protégeaient pas assez, ne protégeaient pas assez leurs patients des maladies. Mais c'est vrai qu'on avait, enfin, à l'époque, régnait une conception d'ensemble qui faisait que finalement, bah, c'est vrai que les médecins ne se désinfectaient pas les mains, ne se lavaient même pas les mains pour accoucher des femmes, etc. Donc c'est vrai que lui arrive avec d'autres, hein, puisqu'il y avait d'autres précurseurs que lui dans ce domaine, et il insulte carrément, puisqu'il est quand même, enfin, je veux dire, c'est un homme qui est très batailleur, il est plein de foi et de fougue, et il insulte à l'Académie de médecine les médecins en leur disant qu'ils font n'importe quoi, et qu'il faut au contraire faire attention, se protéger des microbes et... Donc il est convaincu, il pense qu'il faut, il voit quelque chose que personne n'a vu avant, c'est le microbe, qu'il identifie comme tel, et il montre son effet sur la vie humaine, et ce qui fait que finalement notre manière de vivre en sort différente.
Alors il travaille au début sur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est assez éloigné de la médecine encore, sur les maladies des animaux, faisant disparaître des maladies qui décimaient les troupeaux français, le charbon de la vache ou du mouton, il y avait aussi le choléra des poules, et puis alors il va commencer à s'intéresser, bien sûr, à soigner des hommes avec la vaccination. Alors il est tellement célèbre aujourd'hui qu'on lui prête absolument toutes les inventions. Il faut rappeler quand même, Corinne Maillère, que la vaccination, elle existe déjà depuis un siècle avec Jenner, je crois que c'était à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, mais en fait, il l'avait pratiqué sur des vaches. Mais en revanche, on n'avait jamais pensé à expérimenter, enfin, puisque c'est une expérimentation. La vaccination de Joseph Meister est une expérimentation réussie qui a bien tourné, mais ça aurait pu être un désastre, enfin. Et c'est la première fois qu'on essaie ce type de soins, finalement, sur des êtres humains.
Et sauvé, donc, Joseph Meister de la rage, il avait 9 ans en 1885 et 62 ans quand il racontait à la radio comment Pasteur l'avait sauvé, une archive très rare de l'INA en 1938, Joseph Meister.
C'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur.
Comment le grand savant vous accueilla-t-il?
M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc, en quelque sorte, servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Et c'était Joseph Meister en 1938, le premier Kobe, comme disait le journaliste humain de Pasteur. C'est émouvant de l'entendre, d'autant plus, il faut le rappeler peut-être Corinne Maillet, que Joseph Meister a travaillé ensuite à l'Institut Pasteur, et puis en 2 ans après qu'on entende sa voix, il s'est suicidé au moment de l'entrée des Allemands dans Paris en 1940, dit-on, parce qu'il ne voulait pas que les Allemands entrent dans l'Institut Pasteur, je crois.
Oui, il voulait pas que les, je crois qu'il voulait pas que les Allemands entrent dans la crypte où reposait Pasteur. Ouais. Ils ont demandé les clés. Il a considéré que c'était un outrage à la mémoire du grand homme qu'il avait sauvé. Il a refusé, il s'est tué. C'est étonnant parce que cet homme a vu toute sa vie associée à Pasteur et à l'Institut Pasteur. Parce qu'à la suite donc de cette vaccination réussie, Pasteur s'est beaucoup occupé de lui. Enfin, il a suivi son destin scolaire. Il lui écrivait régulièrement. Il s'est informé de savoir ce qu'il devenait. Enfin, il avait toujours une sorte de grande tendresse pour ce jeune Alsacien. D'ailleurs, on l'entend à travers cet extrait.
Ouais.
Et ensuite, il va trouver une place de gardien à l'Institut Pasteur. Donc, c'est très étonnant.
Alors, justement, ça fait partie, parce que votre livre n'est pas à proprement parler une biographie de Pasteur, c'est une réflexion sur ses méthodes, sur ce qu'il a apporté d'innovation dans la science en général, dans la médecine en particulier, et puis aussi sur le personnage, le portrait de Pasteur. Et là, vous venez de le dire d'une certaine manière, il est très paternel, dites-vous, avec ses malades, avec Meister, mais avec ses malades, il y a un côté paternel, effectivement, chez lui.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il est toujours en position de père, en fait. Il incarne très bien, par sa figure, par son travail et par les rapports qu'il a avec les autres, le père, enfin, une sorte de père absolu qui n'existe finalement nulle part. Et c'est très surprenant chez lui. Je prends un exemple, par exemple, dans sa famille, il s'est toujours beaucoup impliqué dans l'éducation de ses sœurs, alors qu'il a seulement 18 ans, il écrit des lettres régulièrement à son père pour expliquer que ses sœurs doivent aller au pensionnat, doivent suivre telle ou telle éducation. Ouais. Et c'est pareil avec ses enfants, avec lesquels il était extrêmement protecteur. C'est pareil avec ses élèves. Enfin, il a un côté comme ça très, très impliqué, au point d'en être, j'imagine, assez pénible, puisque quand il avait des postes de responsabilité à l'école normale supérieure et il a fini par en être écarté tellement sa conception de l'ordre et de la prise en main des élèves était étouffante. Donc il a un côté comme ça très... Enfin, comme ça, père des autres et père des éléments aussi, et ça se voit dans ses recherches.
Vous dites que ça vient peut-être aussi de son propre père à lui, qui était un vrai père poule, hein, d'après ce que vous avez dit. Il est né dans le Jura, il est très attaché à ses racines d'Arbois, mais il avait un père qui s'occupait de lui, qui était tout le temps en train d'avoir peur pour lui, qu'il tombe malade. Il faut rappeler que Pasteur, toute sa vie, non seulement demandait aux médecins de se laver les mains avant d'opérer, mais lui-même passait son temps à se les laver.
Oui, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est vrai aussi, pour revenir un peu en arrière, que sa méfiance vis-à-vis des médecins est venue du fait qu'il a perdu 3 enfants en bas âge de diphtérie ou autre maladie qui sévissait à l'époque. Et il a écrit dans sa correspondance que vraiment il considérait que les médecins étaient des gens qui étaient complètement incompétents. Donc c'est probablement une des raisons de sa méfiance et de sa volonté, comme ça, de s'approprier le champ médical. C'est le fait qu'il a très très mal vécu ces morts de ses enfants en bas âge. Et ça explique, c'est une des raisons qui explique son combat pour une médecine nouvelle.
Dû à de l'eau souillée, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il disait, je crois, le vin est la plus saine des boissons. Non.
Oui, mais il n'entendait pas au sens qu'un fêtard pourrait donner à cette
voilà,
phrase.
Voilà, à consommer modérément, c'est ça.
Voilà. Hein,
et en même temps, c'est quand même un père, vous dites, paternel, et en même temps, c'est un homme qui n'a pas hésité à écrire au roi du Brésil, du temps où le Brésil était un royaume, pour lui demander d'expérimenter ses vaccins sur des prisonniers.
Oui, parce qu'il y a aucune réflexion, je dirais, éthique, en fait, dans ce qu'il faut bien appeler sa geste de science. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il considère que la science est ce qui change le monde et qu'elle a toujours raison. C'est-à-dire que tous les progrès scientifiques, finalement, sont aussi, quel qu'en soit le prix payé, des progrès pour l'humanité. Et donc, quand on part de ce principe-là, ben, finalement, la fin justifie les moyens.
C'est terrible ce que vous dites.
Mais c'est ce que lui croyait, en fait.
Oui.
C'est aussi une croyance de l'époque, puisqu'au XIXe siècle, c'est vrai que c'est le siècle du progrès, de la science, et où on pense que finalement, la science va nous apporter le bien-être, la sécurité, la santé. Et c'est vrai qu'il y a des progrès dans ce domaine qui sont phénoménaux à l'époque. Mais pour lui, je pense que, bah oui, la fin justifie les moyens. Et il rend hommage à la science conquérante qui va changer
c'était
le monde.
C'était l'époque, hein. C'était l'époque.
Oui, c'était, bien sûr, il y a un discours d'époque, mais lui, il y croyait à 100%. Il était totalement impliqué là-dedans. Et c'est vrai qu'après tout, finalement, qu'est-ce que la vie de quelques prisonniers de toute façon condamnés?
Eh ben, dites-moi. Il y a autre côté un peu déplaisant chez Pasteur, très imbu de lui-même, hein, très conscient de sa supériorité sur les autres, très méprisant aussi pour les autres, adorant aussi les honneurs. Hein. Alors, il était à l'Académie de médecine, ce qui est surprenant pour un homme qui a passé son temps à être conchié par beaucoup de médecins, à l'Académie française, il adorait les décorations.
Oui, il aimait effectivement. Mais enfin, vous savez, quand on passe sa vie comme ça à une œuvre qui est finalement qui est une œuvre collective, il y a aussi il y a peut-être il est aussi normal d'en cueillir les fruits. Et il aimait non seulement les décorations, mais aussi l'argent, puisqu'il s'est battu pour avoir un certain nombre de bourses, de récompenses qui parfois atteignaient des montants importants. Mais il faut dire aussi qu'il a toujours tout fait pour obtenir des décorations. La Légion d'honneur était cher à son cœur, pour ses
raison.
Proches. C'est sûrement.
Mais alors, donc, et surtout pour son institut, qui sont devenus ensuite des instituts, parce qu'il y avait tellement de succès, ces vaccinations avaient tellement de succès que tout le monde se ruait, et il, au fond, c'est un peu pour ça qu'il a construit le premier institut, suivi par beaucoup d'autres. On écoute justement son petit-fils, Louis Pasteur, Valérie Radeau, parler justement de ces instituts en 1938, 43 ans après la mort de Pasteur.
L'Institut Pasteur a étendu ses filiales dans le monde, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique occidentale, en Afrique équatoriale, à Madagascar, en Indochine, en Chine. Ces jours-ci, un nouvel institut Pasteur a été fondé à la Martinique. Demain, c'en sera un autre au Cameroun. Dans chacune de ces colonies, les instituts Pasteur répandent les bienfaits de la science pasteurienne, lutte contre le choléra, la peste, la fièvre jaune, le typhus, le paludisme. Elle serait bien belle à écrire, cette histoire des pasteuriens qui, depuis 50 ans, ont essaimé sur le monde. Leur vie est faite de courage, de dévouement, d'abnégation. Formés aux disciplines de la maison de Pasteur et de Roux, ils vont joyeux, créés dans la brousse, sous les climats hostiles, parmi les maladies meurtrières, ces laboratoires ou ces instituts, qui sont les auxiliaires les plus précieux de notre pénétration pacifique, parmi les populations de l'Afrique et de l'Extrême-Orient. On peut dire que l'Institut Pasteur et ses filiales ont bien mérité de la France et de l'Empire français.
Et c'était Louis Pasteur, Valéry Radeau, petit-fils de Pasteur, en 1938. Des propos, d'ailleurs, que n'aurait sûrement pas désavoué son grand-père. Hein. Ce qu'il faisait, il le faisait, vous le dites, pour la France, et même pour son empire colonial. Il était plutôt conservateur, révolutionnaire scientifiquement, mais conservateur politiquement, Corinne Maillère.
Oui, c'est-à-dire qu'il a changé le monde. Enfin, je veux dire, son acte de science a changé le monde, mais il avait une vision, je dirais, politique, qui était, en effet, conservatrice. C'est-à-dire qu'il a jamais mis en cause les orientations d'ensemble de la France, en ces années, par exemple, de colonialisme. Et il avait une vision de la société qui était effectivement une vision où primait l'ordre et finalement le respect des institutions telles qu'elles existent.
Remarquez, à l'époque, peu de gens critiquaient la colonisation, même à gauche, elle était encouragée à la fin du 19e siècle. Vous dites, en revanche, qu'il était bien sûr révolutionnaire en matière scientifique, et vous le comparez à Freud. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé tous les deux, au fond, sur un peu l'invisible, Pasteur sur les microbes et Freud sur l'inconscient.
Oui, déjà, et ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a 50 ans qu'ils les séparent, ils sont nés à 50 ans de distance, mais tous les deux étaient des hommes du 19e siècle, et qui ont été des hommes, je dirais, qui ont été des pères fondateurs de disciplines.
Nouvelles.
De disciplines nouvelles. L'un a inventé donc une médecine renouvelée et a, je dirais, ouvert la voie dans un certain nombre de domaines scientifiques, et l'autre, je veux parler de Freud, a découvert l'inconscient, et a fondé la psychanalyse. Mmh. Avec tous les deux, ont donc fondé des instituts pour propager la parole du maître, enfin, et puis je dirais faire connaître cette nouvelle discipline. Donc dans ces deux figures de pères fondateurs qui sont très différentes mais néanmoins comparables sur certains points, c'est intéressant, je pense, de les mettre en correspondance.
Plus fort, Pasteur, dites-vous, que Lénine, parce que peut-être sa révolution elle allait rester, tandis que Lénine, il en reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui reste d'ailleurs? Que peut-on dire au fond, si en quelques mots, il nous reste très peu, quelques secondes, Qu'a laissé Pasteur aujourd'hui en, parce que c'est une révolution, sa révolution a duré. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Pasteur?
Ben, je pense qu'il reste beaucoup de choses. Il reste finalement le monde dans lequel on vit, un monde où la santé nous est assurée, dans une certaine mesure. Un monde où on se lave les mains, on ne crache plus par terre, on stérilise les instruments pour opérer les gens et pour les soigner, on stérilise les biberons. On vit dans un monde qui est pasteurisé, en fait. On vit dans son rêve. Ben, ça a des choses, ça a des aspects très positifs. Ça a été un progrès phénoménal à l'époque, mais il y a aussi des aspects négatifs de, je dirais, de vivre dans un monde qui est peut-être trop contrôlé, où finalement la santé et le développement économique priment sur un certain nombre de choses.
Merci Corinne Maillard. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Saint Pasteur, marginal et révolutionnaire, un livre paru récemment aux éditions Le Bord de l'eau. Et puis je rappelle que vous êtes également l'auteur, dans un tout autre genre cette fois, de Bonjour Paresse, publié avec beaucoup de succès au printemps dernier aux éditions Michelon. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Pasteur, 5 années de rage, de Luc Béraud, avec Bernard Fresson dans le rôle de Pasteur. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Romain Lequiens, documentation Claire Destacan, Ophélie Vivier et Cédric Joseph Julien, une réalisation de Gilles Davidas. Le programme de la semaine prochaine, lundi, une femme condamnée à mort pour avoir tué ses parents et qui a défrayé la chronique entre les deux guerres, Violette Nozière. Mardi, avec Pierre Péan, les coulisses très peu connues des débuts de la colonisation d'Algérie en 1830. Mercredi, le dernier avatar du fascisme italien, la République de Salo, ça ne s'invente pas. Enfin, jeudi et vendredi, un des monarques les plus singuliers de l'histoire, Louis II de Bavière. Il est 14h30, bonne fin de semaine à tous, et à lundi, je vous laisse en compagnie d'un type assez bizarre aussi, Éric Ier de France Inter.
Yann, nous retrouvons lundi, gars, ici c'est l'aristocrate.